une bonne partie de ma culture politique, et peut-être même de ma culture tout court. Il représentait pour moi l'expression d'une révolte intelligente et généreuse. Aujourd'hui, pour certains, la révolte, elle est certes bête et méchante, mais au premier degré, malheureusement. Alors, s'il te plaît, Cavana, reviens.
Bonjour à tous. Journée de merde. Ce matin, je me lève, je mets France Inter pour apprendre la mort de Cavana. Salut François. Même si j'aurais aimé que tu ouvres un peu plus ta gueule lors de l'éviction de ciné de Charlie Hebdo, organisée par qui vous savez, même si tu n'étais plus que l'ombre de toi-même ces derniers temps, tu m'aurais accompagné et appris à penser différemment pendant plus de 40 ans. Bonjour à toi. C'était François d'Ariège.
Et voilà, j'ouvre la radio, j'entends les infos, et qu'est-ce que j'apprends? C'est que François Cavana est mort. Putain, tout sous le camp. Si des mecs comme ça disparaissent, bon, c'est un peu la logique, hein, on le sait, tôt ou tard. Mais ça fout les boules, parce que quand on voit ce qui se passe à l'heure actuelle, j'aurais bien aimé avoir un petit coup de gueule du père François, là, sur la théorie du genre, les conneries et tout, là, Dieu donné, toutes ces conneries qu'on entend en ce moment, là, de partout, là. J'espère que c'est pas ça qui l'a tué, hein. Mais ça va manquer, encore une voix, une conscience libertaire, réfractaire. Et puis, ben voilà, ça nous enlève à chacun toujours un petit bout de conscience, un petit bout d'indignation, comme disait aussi Essel, voilà. J'avais fait sa connaissance par hasard à Nogent-sur-Marne, sa ville natale, là où il était le Rital, et c'était un type fantastique. Ben, ça me fait de la peine. Malgré tout, la vie continue. On va faire avec, enfin, on va faire plutôt sans. Allez, au revoir.
François Cavana est mort. Pour les plus jeunes, François Cavana, c'était la grande époque de Harakiri, Charlie Hebdo, celle du professeur Choron, de Coluche, etc. Celle où personne n'aurait eu la saugrenue idée d'accuser Ciné d'antisémitisme et de le foutre à la porte. Celle où on faisait de la vraie provoque vraiment risquée, parce qu'on risquait de se faire interdire à tout bout de champ, et non pas des petites provocations genre on passe les mauvaises caricatures sur le prophète Mahomet en sachant que ça va déchaîner des violences et qu'il risque d'y avoir des morts, mais peu importe, hein, ça fait tripler le tirage et on le sait à l'avance. C'était la grande époque de Charlie Hebdo, Harakiri, celle où aucun de ses rédacteurs en chef ni journaliste n'aurait eu l'idée d'accepter la proposition d'un Sarkozy pour aller prantoufler sur une chaîne de radio du service public que nous connaissons bien. Enfin voilà, François Cavana, c'était l'un des derniers représentants d'une époque malheureusement révolue. Bon, bah salut le Rital. Fais-nous des coucous de temps en temps de là-haut.
Le tour du monde. Ma fugue, je l'ai faite à 14 ans. Et d'abord, c'était pas une fugue. Une fugue, ça veut dire une tocade, un coup de tête, un caprice. Moi, je partais pour de bon, pour toujours. Je partais faire le tour du monde. Ça faisait longtemps que j'y pensais, des années que ça mûrissait dans ma tête. L'idée de partir, d'être de nulle part, d'être obligé par rien, d'aller partout, de se poser où t'as envie. Tu restes, tant que tu te sens bien. Et puis, bonsoir, on remet le sac sur l'épaule, en route, pour plus loin. Cavana est parti, et je suis triste. Il a bercé mon adolescence avec ses bouquins et ses chroniques dans Charlie Hebdo, même si je me suis éloigné de ce journal depuis quelque temps. Je suis triste et je m'aperçois que ce matin dans les médias, je suis chez moi, on n'en parle pas beaucoup, ou on en parle mal. Salut François, si t'es parti, j'espère que tu resteras toujours dans le cœur de tout le monde, car vraiment, t'es un mec bien. Salut.
Seul, la virulence de mon hétérosexualité m'a empêché à ce jour de demander Cavana en mariage. Cette phrase, certains d'entre vous s'en souviennent, est signée Pierre Desproges. Aujourd'hui, vous avez compris, hommage à François Cavana qui vient de dévisser son billard, de casser sa pipe, 90 balais, et qui laisse derrière lui, bah voilà ce que vous entendez là. On va pas faire dans l'amertume, dans le règlement de compte, dans l'aigreur. C'est un peu de noblesse quand même, un minimum de noblesse. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va rouvrir les bouquins de Cavana. On va lire Cavana, parce que Cavana a été tout ça, bien sûr. Mais il a été un écrivain absolument magnifique. Et il y a un portrait de lui dans Le Monde, là, que je viens de lire, que je vous conseille, qui est bien fait, qui est signé de Macha Seri, qui dit « Cavana possédait un style magnifique, singulier, mélange d'oralité et de lyrisme ». Et elle recite à nouveau Pierre Desproges qui disait « C'était un Rabelais moderne ». C'est vrai qu'il écrivait magnifiquement bien, émotion garantie, anarchie, enfin vous savez tout ça sans doute. En tout cas, si vous ne le savez pas, ben voilà, allez-y, dévorez Cavana, c'est le moment. Alors on va dire oui, c'était une époque formidable, mais ça non, mais si, mais non, mais ça continue, le combat continue, pas de vieux conisme, s'il vous plaît, pas de vieux conisme, et en voilà la preuve aujourd'hui. On va retrouver, c'est un numéro spécial de la Bassigisfique qu'on vous offre aujourd'hui, on va retrouver un portrait de Cavana d'il y a 4 ans dans la Bassigisfique par François Ruffin. Alors bien sûr que Cavana a fait des tas de petits derrière toutes les commodes du monde, mais il en a fait un là quand même, vous allez voir. Et donc l'histoire continue, lisez Cavana, revenez sur Cavana, aimez ce bonhomme et toute la bande aussi, ils étaient tout un tas, dont GB, dont les autres, mais voilà, il n'y a pas plus rien, on n'est pas orphelin. Le combat continue, écoutez, savourez, et puis chialez un bon coup.
Salut à tous, c'est pour vous donner des nouvelles du Sud-Est. Bien, le repère de janvier aura bien lieu vendredi, et puis on va changer de lieu, on va aller faire le repère à Mons, parce qu'il y a l'association des jeunes artistes du canton de Fayence qui organise une java pour ses 2 ans, à partir des 19h, et on va aborder, comme il y aura beaucoup de jeunes, et des jeunes qui font de la musique, des artistes, et qui vivent localement, et beaucoup de difficultés, comment on peut vivre localement, travailler là où on vit, et être un jeune artiste à l'heure actuelle. Ciao, viva, portez-vous bien. Fais de la politique, mon gars, fais de la politique.
Y'en a marre. Je veux un monde sans bruit caritative, sans paix sociale, sans partenaires sociaux, où chacun ne restera pas à sa place, où la place de chacun sera celle de tous. La gestion et le contrôle collectif, le partage et l'égalité des droits et des chances. Je veux un monde où l'humanité ne marchera plus à reculons vers la déshumanisation, l'abîme et le malheur des temps, où l'on ne nous volera plus la vie. Je veux un monde où l'homme ne sera pas une ressource humaine mais mon frère, où le travail ne sera plus une variable d'ajustement mais un bonheur partagé, où chacun donnera à l'autre, au bien commun, son temps de cerveau disponible. Je veux un monde de tous les mondes, où chacun fera signifier sa vie, vivra l'altérité, s'enivrera de l'autre. Rendez-vous tous dimanche 2 février, à partir de midi, au rassemblement Yanamar à Emmaüs, Pau, Lescar. Un autre monde est possible si nous le voulons.
Française, Français, Belge, Belge. Mon président, mon chien, indécrottable raclure du barreau de mes 2 chaises. Oh. Mesdames et messieurs, les jurés, public chéri, mon amour. Le seul fait que Cavana existe, mesdames et messieurs, les jurés, est une insulte au bon goût français. Je connais personnellement, de par mes humbles activités littéraires, dont je ne dirai rien d'autre, pour ne pas faire de publicité aux éditions du Seuil, je connais, dis-je, dans les milieux huppés des belles lettres françaises, quelques journalistes trou du cul pompeux qui trou du cul pompisent dans mains hebdomadaires glacées et s'esbaudissent volontiers à la relecture de Rabelais alors qu'ils trouvent Cavana vulgaire. Le monde est ainsi fait d'étranges paradoxes. Je connais aussi des gens qui trouvaient Giscard nul et qui trouvent Mitterrand génial, par exemple. D'autres qui vomissent Jaruzelski, mais qui souperaient volontiers chez Pinochet. Alors que, à part la marque des Ray-Ban. Mais je m'écarte du sujet, et c'est tant mieux, parce que, autant vous l'avouer, mesdames et messieurs les jurés, même pour de rire, je serais incapable d'enfoncer Cavana, qui reste aujourd'hui l'inventeur de la seule nouvelle forme de presse en France depuis la fin de l'amitié franco-allemande en 1945, et l'un des derniers honnêtes hommes de ce siècle pourri. Croyez-moi, Cavana, seule la virulence de mon hétérosexualité m'a empêché à ce jour de vous demander en mariage.
C'est Daniel Mermet, c'est la Bassie, j'y suis, François Ruffin, Pain, Cavana, bête et méchant.
Flight number 2, arriving from
New York.
Merci beaucoup.
Voilà.
Je ne suis pas dans un bistrot parce que j'ai un peu le trac, je vais aller rencontrer le héros de mon adolescence, François Cavana. J'avais son portrait au-dessus de mon lit, comme une photo de chanteur ou de footballeur. Ça a été, je crois, mon meilleur professeur de français, hein, puisque, par exemple, dans un de ses bouquins, il dit qu'il déteste les points-virgules. Donc, ça fait maintenant à peu près 20 ans que j'écris sans un seul point-virgule dans mes articles ou dans mes livres. J'avais appelé mon chat Tamara. Dans son roman historique Les Fausses Carolines, il y a une esclave qui s'appelle Tamara. Donc, j'avais appelé mon chat Tamara. Je savais qu'il n'aimait pas qu'on mette des timbres-postes dans les lettres. Sinon, il ne répondait pas parce que c'était comme si on voulait l'obliger à répondre. Donc, quand je l'ai croisé, pour de bon, en chair et en os, à la bibliothèque municipale de la ville d'Amiens, où il venait présenter un livre, Cœur d'artichaut, je lui avais écrit une lettre. Et dans la lettre, je n'avais pas mis de timbre-poste. Bon, il n'a pas répondu quand même. C'est un peu mon cadeau de Noël. Rencontrer Cavana. Et puis, je suis payé en plus. Je suis payé pour rencontrer mes héros. Voilà mon boulot. C'est pas beau ?
Oh, quelle époque ! Quelle aventure merveilleuse ! Quel talent ils avaient, mais quel talent ! Rézère, oh, Rézère ! Quel coup de patte ! Et Volinsky, oh, quel culot, les dessins de Volinsky. Et Cabu, quel coup de patte absolument génial, inimitable. Et GB, oh GB, les histoires de GB, les romans photos de GB. Mais quelle audace, quel talent ils avaient. Et Topor, au début de l'aventure, était là, Topor, inimitable. Pff, la subversion même, Topor, mais c'était vrai. Et Choron. Oh, oh, quelle aristocratie dans la vulgarité, Choron. Et puis alors, au-dessus de tout ça, avec sa moustache et ses chevaux au vent, Cavana, le talent, la tendresse, l'anarchie, le bagou, la culture, qu'ils étaient absolument formidables. Eh bien, si vous vous dites ça en écoutant cette émission, c'est foutu, on va vous interdire d'écoute. Parce que ça s'appelle le vieux conisme. Le vieux conisme, c'est de penser que c'était mieux avant. C'est toujours mieux avant, que c'était extraordinaire, que tout le monde avait du talent, était merveilleux, et qu'aujourd'hui, c'est foutu, c'est fichu. On vit une époque pas formidable du tout. Si vous pensez ça en écoutant cette émission, c'est cuit, c'est foutu, je vous le répète. Parce que, bien sûr, c'était pas différent maintenant. Et aujourd'hui, il y a un tas de gars, des jeunes et des moins jeunes, qui ont du talent, qui sont marrants, qui sont subversifs, et qui sont tendres, et qui sont éclairants, et qui ont un coup de patte formidable, bien évidemment. Et si vous leur faites les poches, si vous leur remontez les bretelles, si vous faites tout à fait autre chose, mais avec évidemment la même rage, la même envie, le même désir, eh bien ce sera très bien. Si vous les choisissez comme ancêtres, eh bien alors là ce sera réussi. Beaucoup d'entre eux, vous le savez bien, sont effectivement devenus des vieux cons, dont l'un qui disait « Nous nous sommes battus pour ne pas devenir ce qu'on est devenu ». Ces vieux cons, bien sûr, on a la liste, on ne la donnera pas à l'antenne, mais sur cette liste, en aucun cas, figurera le nom de François Cavana.
Faut toujours emmerder les gens qui veulent avoir raison. Voilà une tactique infaillible, la position de repli suprême. C'est qu'il emmerde d'instinct et profondément, avec une rare ferveur, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Ça me permet de ne pas entretenir de vilaine rancune, de rester propre du dedans. J'aime ou j'emmerde. La plupart de mes contemporains aiment ou détestent. Moi pas. J'aime ou j'emmerde. Pour Hey, il faut mobiliser sa bile. tandis qu'emmerder vous laisse paisible. Ça vous préserve des autres et de vous-même. Bref, c'est une forme de sagesse, car il faut dans le fond une belle sérénité d'âme pour emmerder les gens qui vous emmerdent.
Alors François Cavana, vous étiez le héros de mon adolescence. J'avais votre portrait au-dessus de mon lit. Ouais, comme poulet le footballeur. Vous voyez, c'est, je l'ai amené le portrait.
C'est marrant, comme tu dis, comme un footballeur.
Avant vous, il y avait eu Platini, donc un autre Ital, et après, il y a eu François Cavana.
C'est le dessin de Diaz.
Donc là, sur le dessin qui était au-dessus de mon lit, il y avait une citation de Desproges à côté, bon, où il dit à la fin « Seule la virulence de mon hétérosexualité m'empêche de demander François Cavana en mariage ». Donc on vous voit là, sur le dessin de Viaz, on vous voit assis au pied de la rue Sainte-Anne, donc la rue Sainte-Anne qui est la rue de votre enfance, à Nogent. C'est un coin arital, c'est une cité, c'est un quartier.
C'était des maisons croulantes. Les Français, peu à peu, s'en étaient retirés et il n'y restait que des immigrants italiens, quoi. Et les quelques familles françaises noyées là-dedans, c'était presque tous des gens à la côte, des miséreux, quoi. Nogent-sur-Marne, c'était vraiment la petite Italie, c'était appelé comme ça. Et non seulement tous des Italiens, ces gens-là venaient tous de la même vallée et parlaient donc tous le même dialecte, parce que la vallée d'à côté parlait déjà plus tout à fait le même. La plupart d'entre eux n'avaient jamais de contact avec un Français. Sur le travail, sur le chantier, ils avaient affaire qu'à des copains à eux, qu'à des... rentrer à la maison, ben, ils avaient leur femme qu'ils avaient fait venir de là-bas, la même chose. Mon père, par exemple, n'a jamais vraiment parlé le français ni l'italien. Il parlait ce dialecte qui est extrêmement bizarre, d'ailleurs.
Parce que quand on parle de ghetto aujourd'hui...
C'était un ghetto, et ça fonctionnait absolument en ghetto. Et noyé au milieu d'une grande communauté française qui, on peut dire, les ignorait, quoi.
Donc vous étiez la racaille de Nogent ?
On était la racaille, exactement la racaille. On était le bouc émissaire universel du peuple français. Où on venait bouffer notre pain, les ritales, on en a marre, les macaronis. Et bon, voilà, c'était très dur à vivre. Hein.
Le premier chapitre de L'Œil du Lapin, vous êtes amoureux de Gisèle Bénoté. Gisèle Bénoté qui est une petite fille à l'école maternelle, vous êtes amoureux d'elle.
Je la vois encore. Je la vois là, devant mes yeux.
Comme vous êtes le meilleur élève de la classe dès la maternelle, vous êtes au premier rang. Elle est la meilleure fille de la maternelle, on vous met à côté. À la fin, elle pleure parce qu'elle est prise en photo à côté de vous. Vous comprenez pas pourquoi, ça. Et à la fin, elle le lance à sa mère en pleurant. Mais c'est un macaroni.
Bah oui. Gisèle Bénoté a arraché sa petite main dans la mienne. Elle a couru jusqu'à sa mère. Elle s'est blottie contre sa jupe comme si elle voulait s'enfoncer dedans. Elle a crié de toutes ses forces « C'est pas mon fiancé, c'est un sale macaroni !» Je m'en fous, je l'aimerais quand même toute ma vie. Ah oui, toute sa vie était comme ça. Quand on allait chercher le pain chez la boulangère, tous les autres clients passaient devant nous et on était là, on attendait. Enfin, des tas de petites avanies comme ça, des méchancetés. Les instituteurs, par exemple, que j'ai eu. Bon, ils m'aimaient bien parce que j'étais un bon élève. Mais en même temps, ça les gênait. Qu'un petit rital, qu'un petit étranger, là, fasse mieux que les Français. Je me tenais pas à mon rang. Voyez-vous.
Père italien, mais mère française. Vous êtes un métis. Non.
En plus, j'étais mal barré.
Il y a comme un père lumineux, un père qui est la joie, qui tape du poing sur la table quand il joue aux cartes, qui n'arrête pas de rire, de chanter, qui crache ses chics, qui collectionne les os de poulet dans ses poches pour les donner aux chiens quand il les croisera.
Il avait même des carottes, il avait pour les lapins.
Donc, un père qui déborde d'affection pour vous.
Pour le monde entier. Mon père rayonnait, oui.
Et de l'autre côté, une mère plus sombre, un peu mélancolique, elle a surinvesti sur vous. Dès la maternelle, on sent qu'elle est derrière vous, qu'elle souhaite que vous ayez les meilleurs résultats de la classe, que vous ayez ramené des bons points, des images, que vous ayez votre médaille de zéro en orthographe qui batte sur votre torse.
Ma mère, mais oui, elle m'aimait. Mais elle avait besoin d'être fière de moi. Ma mère, ouais, était très très fière de moi, je ne peux pas dire autre chose. Ça tenait une grande place dans sa vie, jusqu'au jour où je n'ai plus été un petit garçon.
Et donc, là, je lis quelques passages, c'est sur vous et votre mère. « Maman n'a eu qu'un grand amour dans sa chienne de vie, moi. Elle avait son fils, elle n'avait plus besoin de rien d'autre. Je n'ai pas de frère ni de sœur. Je pense que, aussitôt ma naissance assurée, elle a laissé à papa le grand lit et s'est exilée dans le liquage. J'ai été l'amour fou de maman. Je dis j'ai été et pas je suis, car un jour j'ai cessé d'être un petit enfant.
D'un seul coup compris qu'elle était toute seule, quoi, que j'étais plus là. J'étais plus son petit François.
Alors, je vais dire, c'est le début de Mignonne, allons voir si la rose. J'étais destiné à devenir maçon, comme papa, ou employé des postes, ce qui aurait fait tellement plaisir à maman. J'aurais été l'un ou l'autre sans regret. J'aurais, je le sais, fait joyeusement mon boulot. J'aurais été un maçon habile et consciencieux ou un postier qui aurait grimpé les échelons. J'ai d'ailleurs été l'un et l'autre, successivement. Si je ne m'y suis pas tenu, c'est que mes réactions devant les hasards de la vie, en une époque tout spécialement épouvantable, m'ont projeté hors de l'orbite assignée. Donc là, ce qui va bouleverser votre destin, c'est ce qui a bouleversé le destin de millions d'hommes, c'est la guerre
39-45. Oui, bien sûr, il y a eu le STO. Le décret, en février 43, était à peine passé que se trouvait dans un wagon à bestiaux en route pour Berlin. Exactement le jour de mes 20 ans, je me suis retrouvé à la gare de l'Est, gardé par un cordon de flics, avec un tordeau de gadonnage. Pour où, on ne savait pas. Est-ce qu'on était des otages, est-ce qu'on était... On ne savait pas. Et écoutez, c'est un peu comme les Juifs que j'ai vus rafler un jour, en 1942. J'ai vu la grande rafle qui avait eu lieu sur le faubourg Saint-Antoine. Les gars partaient, on les faisait descendre de chez eux, ils étaient sur le trottoir, ils attendaient les autobus. Ils étaient tristes, leur famille les voyait partir, mais ils se rendaient pas compte de ce qu'ils faisaient, ils se laissaient embarquer comme des cons, comme nous. Ils savaient pas qu'ils allaient vers la mort. Nous, ça s'est pas terminé aussi dramatiquement, mais on était aussi cons. Qu'est-ce qu'on est moutonniers, bon Dieu, qu'est-ce que... Je me suis trouvé dans un wagon à bestiaux qui a mis 3 jours pour atteindre Berlin parce que c'était la guerre. Hein. Il y avait des convois, il y avait mes yeux sont ouverts bien grands parce que je voyais tout ça comme une espèce d'immense aventure. Vous vous rendez compte, pour moi, Berlin, c'était devenu le camp des Tartares. C'est Michel Strogoff. Regarde de tous ses yeux, regarde. Cette fameuse phrase, la tête d'un chapitre de Michel Strogoff, quand on lui brûle les yeux. Et je regardais de tous mes yeux ces types en cafetan, couverts de peau de mouton, avec ces bonnes femmes entourées de capoques, de cochonneries, des trucs pour se tenir chaud. Les Allemands, ils faisaient quelques façons en France, ils mettaient quelques manières pour faire semblant que ce soit légal. En Ukraine, en Russie, ils se cassaient pas tant la tête, ils renflaient un village entier. Je les ai vus débarquer aussi, ça. J'ai fait connaissance là, au bagne, avec le peuple russe, oui.
Voilà, parce que le capitalisme allemand profitait bien de cette guerre, mais l'ennui avec la guerre, c'est que les travailleurs étaient au front. Donc on a fait venir, vous avez compris, avec le STO, c'est-à-dire le service du travail obligatoire, avec la complicité du gouvernement de Vichy, des milliers, des dizaines et des centaines de milliers de jeunes Français au titre de ce travail obligatoire, du service du travail obligatoire. Ils ont été entre 600 000 et 650 000 entre 1942 et 1944 à prendre ses wagons pour l'Allemagne, pour se retrouver à travailler dans des usines et faire marcher la machine allemande. Mais de l'autre côté, eh bien, il y avait aussi des prisonniers de guerre russes qui travaillaient dans ces camps au titre du STO. Et il y avait du côté français un certain François Cavanna et de l'autre côté russe. Vous connaissez sans doute l'histoire, ce beau livre de François Cavanna, Les Ruskov, une certaine Maria.
Et donc vous arrivez en Allemagne pour le pire et pour le meilleur.
Voilà, je me retrouve dans un camp, comme tous les camps, quoi, des barbelés. On était complètement abrutis, crevés ces 3 jours sans dormir. D'ailleurs. On nous fout dans des cabanes, il y avait des lits superposés. Et bon, voilà, on désigne un lit, tu es là, je pose mon fourbi là. Et à ce moment-là, l'interprète, c'était un Belge. Qui me dit, bon, bah, écoute, mon vieux, faut que tu ailles travailler maintenant. De but en blanc, je me suis retrouvé dans une énorme machine, c'était une presse. Sur cette presse, on était 3 à travailler, il y avait le chef de presse qui était censé être le français, et puis il y avait 2 Russes, 2 femmes ukrainiennes. C'était Maria, quoi. Je croyais qu'elle était allemande, je savais pas ce qu'elle était, je m'en foutais. C'est elle qui m'a appris les gestes que je devais faire. Il fallait qu'on marche bien ensemble. Pendant une 15aine de jours, j'ai cru que je parlais allemand alors que je parlais russe. dans cette nuit de fantasmagorie, dans cette nuit, j'étais absolument crevé, où je tenais, je voyais plus clair, je n'avais plus de bouger, j'avais faim, j'avais sommeil. C'était... Cette fille m'est apparue. C'est pas qu'elle m'est apparue, elle était la fée, l'amour, la femme. C'était des amours tout à fait platoniques, il n'y avait pas moyen de faire autrement. On ne pouvait se voir qu'au travail. Le reste du temps, on était dans des camps séparés. On a couché ensemble pour la première fois et pour la seule fois quand les Russes, quand l'armée rouge nous a délivrés. Et aussitôt après, on s'est perdu.
Et vous l'avez cherché en vain, alors?
Voilà. Et j'ai su qu'elle me cherchait aussi. Alors, si par des connards qui... Oh, ta gonzesse, on l'a vu, elle te cherchait, tu l'as... Bah, c'est tout. Tu l'as pas prise avec toi? Oh, mon Dieu, moi, l'histoire de cul, hein, pas... Peut-être que j'ai pensé que t'en avais marre, t'allais rentrer en France, que tout était... J'ai traîné en Poméranie, comme ça, pendant à peu près 2 mois. Tout ça à pied, hein, dans un pays complètement dévasté... Il n'y a plus rien. Ce qui me sauvait, c'est que je la cherchais. Mais je remuais si elle était à ce mesure de temps que je suis allé à l'ambassade russe, au consulat soviétique, à la Croix-Rouge, à des tas d'organismes, même la Croix-Rouge canadienne qui avait à Paris, pour tenter d'avoir des nouvelles ou d'aller là-bas même, peut-être. J'étais même prêt à aller en URSS sans espoir de retour. De me faire un citoyen soviétique, je m'en foutais. D'abord, je ne savais même pas trop ce que... représentait.
Et vous avez même écrit un livre. Là, vous imaginez que vous allez retrouver Maria à la fin de votre vie.
Mais c'est pas si une chose à ce moment-là. C'est que Pierre Bellemare avait une émission à l'époque et où il s'agissait de faire se rencontrer deux personnes qui s'étaient beaucoup aimées, ou enfin, qui avaient une grande amitié, et qui s'étaient perdues de vue depuis longtemps. Les faire se retrouver. Il avait lu les Ruskov et il m'avait envoyé une jeune femme, une collaboratrice, pour me proposer de retrouver Maria. Ben, j'ai dit oui. Tout ce que je savais de Maria, c'est qu'elle était de Kharkov, en Ukraine. Et ils avaient fait des recherches à Kharkov et dans les environs. Ils avaient mobilisé des étudiants en français, interrogé des policiers. Et même à un moment donné, si, ils avaient bon espoir. Mais finalement, ça n'a débouché sur rien. Ils ne l'ont pas retrouvé. Alors, ça m'a donné une idée de prolonger, de faire qu'ils l'avaient effectivement retrouvé. Et je racontais ça, quoi. C'est 2 ans et demi d'espoir, de tension, de... Oh, puis elle m'a sauvé la mise plus d'une fois. Hein. Parce qu'elle était très débrouillarde. Moi, je faisais le con. C'était une espèce d'escogriffe, va de la gueule. J'emmerdais les cheveux. Le travail était pas l'horreur pour moi. C'était des gros travaux pénibles, mais j'en avais l'habitude. Mais je supportais pas qu'on me fasse faire ce que je voulais pas faire. Ce que j'ai fait, je ne peux pas s'appeler de la résistance, mais je peux s'appeler du sabotage. Pas pour une cause, pas pour la France, pas pour... Non. Parce que ça me faisait chier. Parce que je n'admettais pas qu'on m'ait pris, qu'on m'ait foutu là. Alors je faisais le con. J'ai eu 3-4 avertissements de la Gestapo, comme quoi on allait me foutre un Arbeitslag. Et j'ai été sauvé de ça quand les bombardements sont devenus intenses, quand les Américains s'en sont mêlés. Les grosses usines devaient fournir un certain nombre de types... pour aller déblayer les ruines chaque matin, après les gros bombardements de la nuit, pour tâcher de sortir les mecs pas trop morts encore, se dessous les décombres. Naturellement, les usines se débarrassaient de leurs racailles, des bons à rien, des saboteurs, des traînes patins, et donc moi, je me suis retrouvé dans une de ces équipes, gardée par 2 types avec le fusil en bandoulière, pour aller chercher les pas tout à fait morts. C'est un miracle que j'ai ramené ma peau.
Donc vous ramenez votre peau quand même? Avec 2 phalanges en moins.
Elle a été écrasée sous une presse. Oui.
Avec 2 phalanges en moins et une oreille en moins.
Détruite. À l'oreille, c'est à la suite d'une bombe qui est tombée trop près. Ça. Quand je cherchais sous les décombres, là, les Maccabées. Non, cette perte de Maria, c'est beaucoup plus déstabilisée que toute la déportation. Que tout ça. Non, il n'y a qu'une chose qui dominait tout, c'était ça. C'était... Écoutez, j'ai découvert une chose, c'est que dans ma vie, il n'y a qu'une chose qui peut importer, c'est ça. C'est ça, la femme. Il n'y a que ça qui peut m'apporter de la joie, qui peut m'apporter du malheur. toute ma sensualité, tout mon besoin d'affection et de donner et de recevoir, tous mes vœux tendent vers la compagne, quoi, la femme. Et quand je me suis mis à faire des journaux, je gagnais la vie, mais en faisant de la merde. Et à ce moment-là, j'avais déjà 5 gosses avec ma femme à nourrir. Il fallait vraiment ramener la paix à la maison. Alors moi, je faisais de mon mieux, je faisais les dessins que je savais qui passeraient, qui étaient de la merde, parce que quand je faisais un bon dessin, on le refusait. Je faisais comme tout le monde, je faisais du caca. Mais j'avais en idée que je ne voulais plus continuer comme ça, qu'il faudrait un bon journal. Qui aurait les capitaux pour fonder un journal à ma guise, un journal où... Bon, bah, j'ai trouvé un gars qui le pouvait, c'était Choron. Ce gars-là était un vendeur fabuleux et un meneur d'hommes encore plus fabuleux. Moi, je nous ai miroité toujours cette idée d'un grand, vrai, beau journal où on dirait tout ce qu'on veut, du vrai bon humour. Et j'ai réussi à le convaincre. C'est bien qu'un jour, avec Choron, on a lancé notre vrai beau journal, qu'on appelait Acme, vendu par colportage uniquement. Et le miracle, c'est pas ça. C'est quand j'ai vu répliquer, à peine le journal sorti, un gars qui s'appelait JB, un gars qui s'appelait Volensky, un gars qui s'appelait Réserve, un autre qui s'appelait Camille, et Topor. Mais vous vous imaginez, ces gars-là, qui n'était pas encore au point, mais on le sentait, on le voyait, ça frémissait. Alors là, ça, c'était le miracle.
Alors là, vous écrivez, hein, c'est sur la fondation de Harakiri. Harakiri, journal bête et méchant, c'est nous. Le journal fabuleux qu'on se faisait miroiter, yeux noyés, devant un demi panaché pour nous consoler, nous venger, nous exciter la glande, aux heures de déprime, après avoir bien fait nos putes dans ces hebdos de merde pour qui on n'est jamais assez lourdingue, jamais assez rampant, jamais assez amant en caleçon dans l'armoire à glace, jamais assez con, jamais en un mot assez parisien. On l'a notre journal, il est à nous, on y fait ce qu'on veut, absolument ce qu'on veut, pourvu que ce soit bon, bon pour nous, c'est nous les juges.
Quand je pense à ce que je faisais, à la manière dont j'ai rempli mes journées à ce moment-là, je n'en reviens pas. J'écrivais à tour de bras, à peu près la moitié des pages du bouquin de ma main.
Finalement, c'était la première fois que vous faisiez ce que vous vouliez aussi, non?
Oui. Quand j'ai eu des gars à diriger, j'ai fait de mon mieux pour les faire s'épanouir, les forcer à devenir ce qu'ils devaient être. Mon boulot consistait à les aider à devenir eux-mêmes. Eh ben, je l'ai fait de mon mieux. Ce qui est, c'est que j'étais un peu plus vieux que tous. Ça signifie bien qu'effectivement, je pouvais avoir un peu une position de père, c'est vrai.
Alors là, vous écrivez, hein. Mon vrai boulot, c'était la détection des gars. Ça, oui, très important, vital. Et ça, c'était mon boulot. Repérer, parmi tout ce grouillement de têtards, ceux qui ont le signe. Savoir voir la lueur, ténue, autour de leur tête. L'intelligence et la patte. Et tout le reste, la curiosité, l'insatisfaction, l'ambition. Ne pas les louper, les bénis des dieux. Ne pas se tromper. Ne pas s'emballer sur le tocard à facilité. Le talent n'est que du talent sans l'épère du besoin de crever le plafond, sans la capacité de se faire souffrir, sans l'inhumaine patience, sans l'acharnement bec et ongles, sans les coups dans la gueule encaissés, oubliés. Oui, je deviens lyrique quand je parle d'eux. Mère poule couveuse de bébé cygne, m'en fous. De ça, oui, je suis fier, merde et pas qu'un peu. Au premier malhabile gribouillage, reconnaître un futur riser, un Volinsky, un Cabu, un GDB, un Willem, un Fournier. Je l'ai fait, moi, c'était mon boulot à moi, mon humble et décisif boulot, et croyez que je tremblais, que je me disais, t'es pas gonflé, du con, et si tu te fous dedans, si ce type ne vaut que dalle, ou pis, s'il est simplement pas trop mal, comment tu iras le lui dire, hein? Tu te vois le virer, lui dire pardon, mon pote, ce que tu fais, c'est pas dégueulasse, mais c'est pas assez pour nous. Tu te vois lui dire ça?
Et mon boulot, c'est aussi de gonfler les autres, de les guider, de les envoyer chier parfois. Le petit réserve qui est resté plus d'un an sans pouvoir travailler en rendant service militaire, Il me faisait que des conneries, les militaires l'avaient tué. Mais je m'y cramponnais parce que je savais que Reiser, je le savais, bonjour, bonjour, Reiser, ça y était. Et on s'est sorti de la gang et, ouf, voilà. Ah, ça c'est chouette.
Ce qu'on pourrait faire, et alors le plus franchement du monde, c'est peut-être dire un mot sur Cavana.
Antenne 2.
Ce que vous ne lui avez jamais dit, vous pourriez cette fois-ci lui dire. Alors, je ne sais pas si vous aurez ce courage. On va commencer par Camille.
24 avril 1980.
Non, mais franchement, quoi. Parce qu'alors là...
Oh, oui. Je voudrais lui demander s'il a été oui ou non volontaire pour travailler en Allemagne.
Oh, c'est la grosse rigolade. C'est l'échappatoire. J'ai répondu, tu le sais très bien, tu sais, depuis 20 ans.
Comment vont vos pintades ?
Non, je t'emmerde.
Vous lui dites vous ?
Ah oui, je lui dis
vous. Oui, me dit vous.
Et pourquoi ?
Ah, voilà une bonne question.
Parce que.
Pourquoi depuis 22 ans, ce type me dit vous ?
C'est le patriarche, c'est ça ?
Voilà. Non, mais quand je suis arrivé, c'était déjà un monsieur. Et tous les deux réserves, on dit toujours vous à Cavana et à Cheron, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais.
À Cheron aussi ?
Oui.
Alors, GB. Comment on regarde Papa Cavana ? Ah non, j'aurais pas dû dire Papa.
Ah, pour moi, c'est pas Papa Cavana. Cavana, c'est pour moi, c'est un peu mon double. C'est un double que j'oserais pas reconnaître. C'est mon double critique. Et c'est mon complément. C'est-à-dire qu'il est pas plus que moi, mais il m'est indispensable.
C'est un bon dessinateur ?
Ah ben, je sais pas. Non. Non, je crois pas. Mais c'est un écrivain prodigieux. Ça c'est sûr. Il a rôdé autour de pas mal de moyens d'expression et qui ont été le dessin, le photomontage, la photo, tout ce qu'on peut imaginer. Et puis il est venu à ce qui était son moyen d'expression, c'est-à-dire l'écriture.
Oui, Cheron. Cavana exerce un pouvoir ici. Il s'en rend pas compte, mais Cavana pèse sur nous tous.
Au bout d'un an, vous avez votre première censure.
Oui, interdiction à l'affichage, chose épouvantable, qui existe toujours, qui est une loi de dictature, une loi de coup d'État.
Bon, ça part du ministère de l'Intérieur, par le banc du ministère de la Justice, ministère de l'Information, vous faites la tournée des ministères, et puis à chaque fois, on vous fait un peu la leçon en vous disant que, bon, vous êtes un peu jeune, vous êtes un peu trop fougueux, essayez d'être moins fougueux, et on vous demande de faire une série de numéros qui ne seront pas vendus, mais juste pour prouver que vous vous améliorez, que vous êtes un peu moins jeune, un peu moins fougueux.
Imprimé à un exemplaire. Il fallait le faire, le mettre en page et tout. Et
tout ça pour pas un rond, parce que comme c'est pas vendu...
Pas un rond. Et non seulement il n'était pas vendu, mais on n'avait pas un sou de chacun. Et moi, pour survivre, je faisais des conneries, de la publicité, des couvertures de bouquins policiers. On avait à bouffer. Chauron, c'était un gars qui avait besoin de situations désespérées. Quand il était devant le trou noir, là, il déployait tout son génie.
Alors là, par exemple, ça c'est lors de la première interdiction. On voit Cheron en action devant l'imprimeur. Un beau chambard dans l'imprimerie. Guichard, donc l'imprimeur, qui se retrouve avec ce tas de papier sur les bras. Je vous l'avais bien dit de ne pas jouer au con. Cheron le rassure. Cheron rassure toujours les gens. Il leur dit n'importe quoi. Ils savent que c'est n'importe quoi. Ils savent que c'est pour les rassurer, pour qu'ils lui foutent la paix le temps de trouver. Ils savent qu'il n'a pas lui-même la moindre idée de ce qu'il va faire, qu'il n'y croit même pas à ce qu'il leur dit, qu'il a la trouille au ventre et la purée dans la tête. Ça ne fait rien, il le croit.
Oui, bonjour, je voudrais parler à monsieur...
C'était pourquoi, monsieur ?
Vous savez, je suis le professeur Cheron.
Oui.
Et je fais un journal qui s'appelle Professeur Cheron.
Oui.
Si vous voulez, dans mon journal, je vous ai fait vraiment une pleine page de publicité.
Oui.
Et j'ai repris le couple, la personne d'un certain âge.
Oui.
Alors, moi, cette page-là que je vous ai faite, quoi, j'aurais bien voulu vous la vendre.
Oui.
Parce que, évidemment, mon journal me permet d'aller un peu plus loin que vous.
C'est-à-dire
C'est-à-dire que, tout simplement, la personne âgée qui est à côté de la grande, belle mariée...
Oui.
Je lui ai descendu le pantalon jusque sur les chevilles. Alors, il y a son sexe qui apparaît, évidemment, au-dessus de son petit gilet, mais il reste très chic.
Oui.
Et alors, il y a la mariée qui dit, prête à tout, c'est beaucoup dire, je lui gratouille juste son bazar avec mon bouquet de fleurs, parce qu'elle a un bouquet de fleurs à la main. Est-ce que vous pensez que ça peut séduire, monsieur...
Alors là, peut-être que monsieur...
on va en rigoler, mais je sais pas si d'autres personnes vont rigoler en voyant ça.
Ah mais, enfin, mais je fais pas ça pour rigoler, moi.
Non, mais c'est...
Ah, mais je fais ça pour gagner de l'argent.
C'est un gag ou pas, là?
Ah non, c'est pas un gag.
Vous rappelez une autre fois. Maintenant, vous me faites perdre mon temps.
Comme vous avez été sage assez longtemps, vous avez le droit de reparaître.
Voilà.
Et donc, c'est les années où vous avez été le plus heureux, professionnellement, en tout cas.
Ah oui. On n'avait qu'à chercher des idées et qu'elles soient formidables. On ne peut faire du bon humour qu'en étant en colère, qu'en étant indigné. Ça attire cette bon ton. Pas d'ironie, surtout. Oh, l'ironie. Non. Dans la gueule.
Finalement, vous disiez, vous avez été jeté hors de votre orbite. Et puis tous les gens autour de vous, que ça soit Choron...
C'est un fils de garde-barrière qui...
Que ça soit Reiser, je ne sais pas trop quelles étaient ses origines sociales, mais enfin... c'est les fils de Prolo qui viennent mettre un journal dans les kiosques, qui est un journal de mal appris, un journal qui n'a pas appris les codes bourgeois.
Et c'est ça. Je n'ai même pas pris conscience qu'effectivement, on était tous finalement des petits pauvres. C'est des purotins de la plus basse espèce.
La Renaissance de Charlie Hebdo, on a un sentiment que c'est un journal d'universitaires. Ce n'est plus le journal des mal appris.
Oui.
J'avais amené un passage de Quatre Rucherons, vous dites... Dans 30 ans, les esthètes redécouvriront Harakiri, cette géniale, chère, vieille chose, si pleine de messages, avec les mêmes transposes d'esthètes qu'ils redécouvrent aujourd'hui Alfred Jarry ou les pieds nickelés d'avant-guerre. Surtout si Harakiri pouvait mourir en pleine jeunesse.
C'est marrant que j'ai écrit ça, et c'est exactement ce qui se passe. Vous savez que tout au long de la vie d'Harakiri, tout au long de leur vie, ces deux journaux-là ont été haïs, méprisés, traînés dans la merde. Pour les gens, c'était dégueulasse. C'était de la pornographie et de la scatologie. Tout ça, il ne faut pas l'oublier, c'est qu'on bossait et on produisait nos petits chefs-d'œuvre dans ce climat-là. Quand je vois qu'actuellement, on redécouvre avec des belles mains d'enthousiasme, « Oh, Harakiri, oh, Charlie Hebdo, qu'est-ce que ça a été autrefois ?» C'est magnifique, et tout, ce renouvellement total du journalisme. Nanana. Ouais, maintenant, on dit ça. À l'époque, on les méprisait, on les haïssait. On est très plus bactères et même pire que tout, on n'en parlait pas. La profession journalistique nous a totalement ignorés. On a tout le temps été en marge. C'est pas plus mal d'ailleurs. Parce que les copinages journalistiques, ça ne peut conduire qu'au compromis, au reniement de soi. Justement, on était complètement isolés, complètement ignorés. Nous ne connaissions personne, ni dans le journalisme, ni dans les arts, ni dans les lettres. Personne ne nous connaissait et ne voulait nous connaître. Et c'était très bien comme ça.
Charlie Hebdo s'est terminé en janvier 82.
Il y a eu une mévente. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on avait une gestion épouvantable. Choron, c'est un grand aventurier. C'est un type formidable. Mais alors, il donnait des feuilles de paie bidon en disant, écoute, c'est pour la sécurité sociale si t'étais... aurait été payé même pas non plus avec la sécurité sociale. Et il roulait les inspecteurs, il les roulait dans la farine, il leur saoulait la gueule. Il les emmenait faire des repas fins à côté, là, chez Dada Mouffant. Ce gars-là aurait fait une carrière d'escroc formidable. Il est resté honnête tout le temps.
Et même une carrière de vendeur. Ce que vous dites, finalement, j'ai été la perte de Choron. Parce que Choron, il m'aurait pas rencontré... À la place de vendre des journaux loufoques sans avenir, il aurait vendu des aspirateurs, il aurait vendu des cartes de crédit.
Comme il serait rapidement devenu le propriétaire de la fabrique d'aspirateurs. Ça, c'est sûr. À cause des acrobaties de Choron, on n'avait pas de trésorerie, on avait des dettes partout, on était poursuivi par des tas de taxes, de cotisations et tout ça. Puis il a payé régulièrement nos salaires pendant 3 ans, en tout, sur 25 ans. Si j'ai une retraite minable maintenant, c'est bien, Choron, je le dois. Enfin, on ne peut pas lui en vouloir.
Je vais le dire, vous réagirez comme vous voudrez, mais j'ai cessé de lire Charlie Hebdo. Et j'ai cessé de le lire aussi parce que j'étais triste pour vous. Je veux dire, à travers toute votre autobiographie, je voyais ce qu'avait été le parcours exceptionnel de types comme vous, comme Choron. Non seulement sur le plan journalistique, mais tout ce qu'il avait fallu d'accumulation de rage avant ça. Avant de faire Harakiri, avant de faire un journal où on vient dire à tout l'ordre établi en place, qu'il s'agisse de la presse, qu'il s'agisse de la publicité, qu'il s'agisse de la guerre, qui viennent chier dans les bottes d'un peu tous les pouvoirs en place. Quand Charlie Hebdo est reparu, je me suis abonné au Charlie Hebdo qui reparaissait, puisqu'en plus vous étiez à l'intérieur, moi je ne pouvais pas rater une seule de vos chroniques. Petit à petit, j'ai éprouvé de la tristesse pour vous, en fait. J'ai éprouvé de la tristesse de voir ce que devenait votre enfant. Par exemple, au moment de l'intervention américaine au Kosovo, quand il y a eu des bombardements sur Belgrade et que Charlie Hebdo, en tout cas une partie de Charlie Hebdo, soutenait ces bombardements. J'en étais triste de voir dernièrement que le Charlie Hebdo, qui était interdit par le ministère de l'Intérieur, se retrouve aujourd'hui à être défendu à la barre par le ministre de l'Intérieur. Et donc, si j'ai cessé de lire à Charlie Hebdo, je dirais c'est par affection pour vous, parce que je me disais, merde, mais c'est pas possible que... Enfin, une vie exceptionnelle, une aventure aussi exceptionnelle se termine de manière quelconque. Vous comprenez ?
Oui. Oui. Non, je pourrais que verser un pleur que finalement, on se bat et on gagne mon père, on se bat pas, et à ce moment-là, on ferme sa gueule. C'est ce que je fais.
Vous fermez votre gueule ?
Ben oui.
J'ai maigri de 5 kilos en 3 mois. Gandhi. Vous voyez ce que ça coûte ? Ah, c'est choisir, ça tombe bien. Ça tombe bien. Oui, ah, ouais, ouais, enfin ça va, quoi. Qu'est-ce que tu veux ? Il faut, ouais, je sais pas. Tant qu'on n'est pas mort, ça va, quoi. Quand on est mort, je sais pas, mais je sais pas, tu vois. J'ai peur d'avoir froid sous la terre. Je me dis, je vais me faire incinérer, j'ai peur que ça me brûle. Tu vois, alors, je sais pas, je me dis, je vais me faire jeter dans la mer, je sais pas, nager, tu vois, pour me faire bouffer comme ça par un requin et tout, pour, putain. Tu sais plus comment finir ta vie, quoi. Un bistrot. Voilà, qu'on m'enterre sous la caisse du bistrot. Allez.
Voyez-vous, maintenant j'ai 85 ans, donc ça a pu durer éternellement. Moi, je pense que dans les 5 ans qui viennent, il est logique de penser que quelque chose m'arrivera. Bon, bah, je l'attends. Tout ce que je souhaite, c'est que ça ne fasse pas trop bobo. Et puis voilà. Il faut s'accepter comme petit vieux quand on est devenu petit vieux.
Vous êtes toujours grand quand même.
J'ai perdu 7 cm, mon vieux.
Et les bacchantes, vous les portez depuis quand, alors, les bacchantes ?
Ah, les bacchantes, il y a longtemps, oui. Je ne me suis jamais rasé depuis 50 ans, j'en ai rasé la moustache. Et j'ose pas le faire, j'ai peur de découvrir la gueule qu'il y a dessous.
Ouais, broyez-y, Cavana. Bête et méchant, Cavana. Salut. Une nouvelle diffusion du reportage de François Ruffin, vous avez compris, c'était il y a 5 ans. En 2010, les innombrables bouquins de Cavana, enfin pas tant que ça, évidemment les Rital, vous avez compris, les Ruskoff, Bête et méchant, qui est disponible en livre de poche, enfin vous faites votre marché, vous passez des nuits blanches à relire. Merveilleux écrivain, merveilleux bonhomme. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter, à la rubrique émission, là-bas si j'y suis. Vous pouvez réécouter également cette émission sur le site là-bas.org, la-bas.org, et puis aller faire un tour sur la page Facebook de là-bas si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Arnaud Caillet et Ludovic Asselot. L'émission a été réalisée par Jérôme Chélius et Guillaume Giraud, préparée avec Jonathan Duong. Et Stéphanie Fromentin attend vos messages sur le répondeur de la base JC au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. On se retrouve pas demain, on se retrouve lundi à 15h pour la base JC. Bonne fin de semaine à tous. Je vous laisse avec Hervé Pochon pour son temps de Pochon.
Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Et maintenant, sur France Inter, il va y avoir un temps de Pochon, mais ça ne va pas durer.
Bonjour à tous et bienvenue sur l'esplanade des Invalides. On aperçoit la tour Eiffel, le dôme doré de l'église des Invalides. Et nous sommes au milieu des ardoisiers qui manifestent contre la fermeture de leur mine à Trélazé, près d'Angers.
De toute façon, à la CGT, on est tous mineurs. Mais il y a beaucoup
À la mine, vous êtes tous à la CGT
Oui. Il y a eu tous les syndicats, parce que tous les syndicats sont là, même dans les retraités. Mais en syndicat actif, il ne reste plus que la CGT pour les ouvriers et la CGC pour les états mécanos.
La CGC, là, derrière ?
Ouais. Ouais.
Je vais aller les voir.
Si vous voulez, hein. Bon, enfin, vous apprendrez, ils vous en prendront rien de plus, hein. Que ce que je vous ai tous dit de
la. C'est pas la peine que j'aille les voir alors ?
Bah disons que enfin, vous aurez le même discours, mais enfin, pas le même point de vue. Eux ils sont à un point de vue, on va dire, je sais pas comment le dire. Enfin, ils sont pas sur les mêmes bases que nous.
Vous voulez pas venir avec moi ?
Ah non, on a pas forcément les mêmes attentes.
Mais quand même, s'ils sont venus là. C'est qu'ils veulent défendre leur mine aussi, comme vous, non ?
C'est la première fois qu'ils sont au pied du mur, comme nous. Dans les autres actions, on ne les a jamais vus. C'est les seuls qui ont... Ils n'ont pas une heure de grève à leur actif. C'est des gens qui ont toujours travaillé pendant que nous, on allait leur gagner leur augmentation de salaire. Voilà, ça faut le dire aussi. Moi, j'ai pas peur de le dire, hein. Maintenant, j'ai rien à me reprocher. Moi, je peux partir, j'ai les mains propres, moi. Mais ces gens-là, il y en a certains, pas tous, mais certains vraiment sont là depuis qu'ils sont mouillés un peu dans ces affaires. Bah là, comment ils commencent à bouger ? Mais il est un peu temps. Voilà. Je suis un peu.
Ouais, vous voulez pas venir avec moi ?
Non. Non, parce qu'il y en a certains que j'aime pas.
Voilà. Ouais, je vais y aller tout seul.
Et ben voilà. C'est des gens intelligents, ils ont de la culture. Normalement. Ils ont un niveau plus élevé que nous.
Ah oui ?
Non, vous le pensez pas.
Bah non, pas du tout.
Mais faut pas le dire alors.
Mais je le dis pas. Je ne l'ai pas dit d'ailleurs. Vous m'avez pas entendu.
T'as rien dit, toi.
J'ai rien dit.
Alors maintenant, je vais voir la CGC. Bonjour, monsieur. Et vous n'avez pas de responsable ? Personne ne veut parler ? Non ? Mais pourquoi ? Je comprends pas. Vous manifestez, mais vous voulez pas parler ?
Si, mais on n'a pas grand-chose à dire.
Bah, quand même, quand on manifeste, et qu'on a quelque chose à dire.
Oui, c'est vrai. On vient là pour défendre notre travail, voilà, c'est ça.
Oui, c'est
voilà,
ça.
L'emploi. Voilà, et puis... c'est vrai, pour défendre l'emploi, c'est tout.
Et c'est drôle parce qu'il y a d'un côté des gens qui ont des gilets de couleur et vous êtes un peu à l'écart.
Ah oui, bah, un peu. C'est vrai.
Parce que vous êtes quel syndicat, vous ?
On n'est pas de syndicat.
Ah d'accord.
Non, on est ouvrier, on n'est pas de syndicat. On est neutre. Voilà.
Parce qu'ils m'ont dit, ah bah là-bas, c'est la CGC.
Ah oui, non, je ne suis pas CGC, moi. Il y en a peut-être des gars de la CGC, mais on n'est pas. La plupart de là, on n'est pas syndiqués. Voilà.
Oui.
Voilà.
Et vous faites quoi, vous, à la mine ?
Nous, on est à la production. Voilà.
C'est-à-dire que vous ne descendez pas au fond de la mine ?
Non. J'ai descendu à la mine.
Ah oui.
Il y a quelques années, mais je suis remonté au jour.
Mais aujourd'hui, vous êtes tous solidaires ou en fait, il y a un peu de clans ?
Bon, y a ceux qui veulent partir à la retraite et puis il y en a qui veulent garder leur emploi. Mais quand on est plus de 80% à partir à la retraite, vous savez ce que ça va devenir ? C'est quoi, là ?
Ah oui, voilà. Vous voulez partir à la retraite ?
Voilà, tout à fait.
Ah oui.
Voilà.
Donc vous, qu'on ferme la mine, ça vous gêne pas vraiment. Ce que vous voulez, c'est juste prendre votre retraite et
voilà,
puis...
c'est ça.
Ah oui, d'accord. Voilà. Donc ça, c'est le désaccord, si je puis dire, entre les mineurs et vous.
Non, mais je pense qu'on est mineurs à la base, on est tous. Et le gars, bon, qui a fait son temps, il a envie de partir à la retraite et puis laisser la place aux jeunes. Voilà, c'est
oui,
tout.
Sauf que là, je discutais avec Eric, qui est mineur depuis 28 ans, et lui, il a envie de retourner, il n'a pas envie qu'on ferme la mine, quoi.
Ah oui, mais ça... Entre vouloir et pas vouloir, ça, c'est notre différence. C'est pas nous les acteurs, hein. Il y a un groupe comme Imerys, ils savent ce qu'ils ont à faire. Et en France, il y a des gouvernements qui savent ce qu'ils ont à faire.
Voilà. Vous êtes d'accord avec le gouvernement ?
Bah, on peut être d'accord qu'on peut pas être d'accord, hein, mais ça, l'avenir nous le dira.
Et je peux vous demander pour qui vous avez voté en 2012 ?
Oui, Hollande. Voilà.
Et vous êtes déçu, pas déçu, ça
non,
va ?
Non, pour l'instant, je suis pas déçu. Je pense qu'il va falloir du temps. Voilà, c'est tout. Il fallait du social un petit peu en France. Moi, je pense que même si on a des conflits, après, bah voilà. Mais on devait les avoir, ces conflits-là. C'est pas de maintenant. On ferme pas une entreprise du jour au lendemain, à mon avis. Voilà.
Mais est-ce que... Donc, pour résumer un peu, les mineurs de la CGT, eux, ils veulent rouvrir la mine. Vous êtes plutôt partisan de dire, bon, bah, écoutez, le mineur, ça a fait son temps, maintenant, prenons notre retraite
non,
et passons
à autre chose. Moi, j'ai 55 ans, j'ai l'âge de partir, je vais avoir 55 ans à la fin de l'année.
Ouais.
Bon, après, c'est pour les jeunes, surtout. Voilà, c'est pour qu'ils gardent leur emploi aussi.
Il y a
un peu de solidarité, quand même.
Ouais, quand même.
Voilà, c'est normal. Mais après, on n'y croit pas beaucoup.
Ouais.
Voilà, il faut être réaliste.
Je peux avoir votre prénom ?
Non, merci. Stéphane.
Alors, Eric, je vais aller parler avec les autres mineurs qui étaient un peu à l'écart. Bon, ceux qui n'ont pas des Pins CGT. Non, mais j'ai dit, vous êtes de la CGT. Il me dit, ah non, non, moi, je suis pas syndiqué.
Ah oui, mais non, mais ils ont été syndiqués à la CGT à une certaine époque.
Ouais.
Ils sont passés chefs. On leur a demandé déjà d'arrêter la CGT. C'était dans les contrats de la direction, ça. S'ils veulent passer chef chez nous, ils sont obligés d'arrêter le syndicat CGT. C'est pour ça que je veux dire, on ne peut pas être sur la même longueur d'onde avec...
Et si on veut en savoir plus, il y a la page Facebook Les Ardoisières de Trélazé.
Un temps de poisson, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve lundi.
Un temps de poisson a été réalisé par Véronique Barnet.
Elle est bizarre ta jambe, elle est toute bleue.
Oh mais quel boulet, c'est un plâtre.
Tu t'es fait ça comment?
C'est un accident de la vie, j'ai glissé dans ma cuisine.
Tu t'en sors bien?
Oui, j'ai la Matmut qui assure les accidents de la vie courante.
Selon conditions définies au contrat d'assurance multirisque, accident de la vie.
Quelle belle bleue.
Oh maintenant ça suffit.
Oh la belle bleue.
Bonjour, c'est Jacques Vendroux. Radio France se mobilise pour le sport féminin. Au programme, chaque jour sur France Inter, France Info, France Bleu et le Move, des portraits de championne française de légende, enquête, reportage, interview sur le sport féminin, samedi 1er février, journée spéciale, 24 heures de sport féminin, avec notamment un multiplex spécial pour la première fois de son histoire, commenté exclusivement par des femmes, et le premier match de rugby féminin du tournoi Destination, la France reçoit l'Angleterre à Grenoble. Plus d'informations, radiofrance.fr.
24 heures du sport féminin pour donner des ailes au sport.
Welcome to the Dallas Buyers Club.
France Inter présente Dallas Buyers Club, un film de Jean-Marc Vallée, 6 nominations aux Oscars, dont meilleur film, avec Matthew McConaughey et Jared Leto, primé au Golden Globe, actuellement au cinéma. 1986 à Dallas, Ron, un cow-boy texan macho et homophobe, est diagnostiqué séropositif. Il a recours à des traitements non officiels, rassemble d'autres malades. Le Dallas Buyers Club est né. Son combat va le transformer. Retrouvez Dallas Buyers Club dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr. Vous écoutez France Inter, il est 16h. Les informations, Laetitia Gaillet, bonjour.
Bonjour, Cavana fut le père de l'humour satirique de la deuxième moitié du XXe siècle, l'inspirateur de la presse satirique moderne. L'hommage cet après-midi de Jean-Marc Ayrault à François Cavana, le fondateur de Charlie Hebdo, mort hier à l'âge de 90 ans. François Hollande s'est lui aussi fendu d'un communiqué cet après-midi. Le chef de l'État évoque l'écrivain qui a fait de la liberté son inspiration et de l'engagement son style. Son nom, dit-il, restera à jamais lié au lancement d'Harakiri qui, par son impertinence et ses provocations à secouer la société française. Les négociations de la nuit dernière entre Arcole Industrie et les syndicats sur le sort de Maurice Ducrot ont visiblement été payantes. La plupart des actions et des blocages dans les différentes agences du transporteur ont été levées aujourd'hui. Les salariés protestaient contre les conditions du plan de reprise. Arcole Industrie promet de meilleures primes de licenciement pour les 3000 salariés menacés. L'offre de reprise sera examinée demain par le tribunal de commerce de Pontoise. Il y a actuellement un CE dans un salon parisien à Paris donc, et la direction de Maurice Ducrot affirme que l'offre d'Arcole assurera la viabilité du site et de l'entreprise dans les mois à venir. Les 7 stations-service Total de Mayotte fermées, idem pour la quasi-totalité de celles de La Réunion. À l'exception de la Guyane, nombreux sont les gérants des stations-service d'outre-mer à suivre le mouvement de grève aujourd'hui et les files pour obtenir de l'essence dans les rares stations-service encore ouvertes commencent à s'allonger. Les gérants de ces stations-service protestent contre la régulation de la filière voulue par le gouvernement. La garantie universelle des loyers est dans les rails. Les sénateurs ont adopté aujourd'hui en deuxième lecture l'un des points forts de la loi Duflot sur le logement. Une croix gammée, un sigle SS, ces inscriptions ont été retrouvées taguées aujourd'hui sur la porte d'une mosquée de Pontarlier dans le Doubs. Un appel à témoins a été lancé. Déjà en décembre dernier, c'est une mosquée de Besançon qui avait été visée par des tags à caractère nazi. Une tête de porc avait même été retrouvée devant la porte du bâtiment. En annonçant des résultats en hausse de 63% pour l'an dernier, 1,5 milliard de dollars de bénéfices, voilà qui a adopté le cours de Facebook aujourd'hui sur les marchés financiers. À l'ouverture de Wall Street cet après-midi, l'action Facebook a gagné d'entrée de jeu 15%. 90 millions, c'est le chiffre du jour et c'est en fait le nombre de tweets qu'ont généré les programmes télévisés l'an dernier. C'est 3 fois plus qu'en 2012, dit Médiamétrie dans son étude aujourd'hui. Et cette augmentation a été progressive tout au long de l'année. Rien que pour le mois de décembre 2013, 882 000 personnes ont tweeté des commentaires au sujet de la télé, soit 65% de plus qu'en janvier 2013. Enfin, sans surprise, pour le premier tour de la France dans la Coupe Davis, Gasquet et Tsonga joueront les simples demain contre l'Australie. Ça se passera à Mouilleron-le-Captif en Vendée et le couple Monfils-Beneteau a lui été retenu pour le double. Vous écoutez France Inter, il est 16h03.
En 2014,
tous le crochet radiophonique.
On a les moyens de vous faire chanter le radio-crochet de France Inter en partenariat avec la SACEM et la FNAC.
5000 auteurs, compositeurs, interprètes se sont portés candidats.
54 ont été auditionnés.
24 ont été retenus.
Vivez la suite de la compétition sur l'antenne de France Inter. Tous les samedis à 21h avec Vali et Didier Varro.
Chaque semaine, 4 artistes à découvrir en live sur la scène du studio 106 de la Maison de la Radio.
Alors, ça sonne bien, non?
Ok, vas-y, je le fais, ok, ça va.
Alors, soyons pirates, on prend crochet.
Tu m'étonnes.
Et votez pour votre artiste préféré.
Qui allez-vous faire chanter?
Sur franceinter.fr.
Pour assister à l'enregistrement de l'émission,
rendez-vous ce soir à 18h30 devant la porte B de la Maison de la Radio.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
France Inter.
Alors, comme ça, vous êtes à Nantes, Frédéric Lodéon?
Eh ben oui, devant une foule magnifique et enthousiaste. Écoutez ça, vous allez comprendre combien c'est un bonheur d'être ici, véritablement.
Eh bien, amusez-vous voilà. Bien, Frédéric. À tout à l'heure.
C'est gentil. À tout à l'heure.
Carrefour de l'Odéon.
Bonjour à vous, et oui, nous sommes à Nantes, Naonède en breton, Nantes, la belle cité des congrès, évidemment, c'est l'endroit qui nous accueille, qu'on salue aussi. Nous sommes dans la grande halle baptisée à l'occasion, et pour cette occasion-là, Central Park, quelquefois, il y a d'autres noms, selon les thèmes de la folle journée, donc tout se transforme, y compris les salles adjacentes. C'est le 20e anniversaire de la folle journée, consacré à la musique américaine. Alors on félicite tous ceux qui ont organisé tout cela. Maintenant, il y a tellement de succès que ça se transporte dans le monde entier, de la Russie en passant par l'Espagne, etc., etc. Enfin, ils vont partout, ils vont en Pologne. C'est comme la civelle nantaise, vous savez, la petite anguille délicieuse, là maintenant elle part en Chine, elle part au Japon, mais peut-être que justement on ne sera pas dépossédé de la folle journée, elle part et elle revient toujours, cette folle journée. Avec nous aujourd'hui, Shani Di Luca, pianiste que je vous demande d'acclamer.
Bravo!
Isabelle Georges, chanteuse, qui a fait ses débuts à Nantes. Henri de Marquette, grand fidèle de la folle journée. Raphaël Sévère, clarinettiste, qui est nantais et évidemment artiste international. Les Imani Wins, fabuleux quintet avant américain devant vous. Et monsieur Yannick Guin, président de la folle journée. Voilà, maintenant on est chaud, on peut y aller. Tout le monde est content, se sent libre et heureux. Et nous allons commencer, bien sûr, par celle qui doit partir le plus tôt, Shani Di Luca, qui a signé un très beau disque, la route 66, hein, 66. Et donc, c'est l'histoire de cette route fameuse, la route de Jack Kerouac. Et c'est une sorte de choix, c'est un florilège, exactement, de compositeurs américains, John Adams, Samuel Barber, Amy Beach, Bernstein, etc., etc. Alors, l'idée vous est venue comment? On vous a pas obligé faire ce disque pour la folle journée, non?
Non, pas du tout. Je pense qu'on ne peut pas être obligé de faire un disque. Et René Martin m'a proposé ce projet en me laissant vraiment une carte blanche sur la création musicale, en tout cas le concept. Mmh. Et pour moi, le livre de Kerouac sur la route était vraiment fondamental, puisque c'est l'exploration un peu de l'humanité à travers cet homme qui décide de traverser les États-Unis le jour où son père décède, à la rencontre des poètes, des fermiers, des criminels, des femmes, de l'amour, mais aussi
tout ça dans le même sac, dites-moi, oui. Les fermiers, les criminels, les femmes, ça va loin. Enfin bon, mais voilà, un grand cœur.
Oui, et justement, c'est une grande route, c'est sa route intérieure qu'il écrit en parlant de musique. C'est un flot de mots, il n'y a pas de paragraphe, il n'y a pas de chapitre. Oui. Il parle même de Beethoven dans ce livre, et c'est vrai que cette exploration l'exploration à travers les États-Unis, chaque état, paysage et finalement odeur m'ont inspiré pour composer ce disque.
Vous avez demandé à une amie de venir enregistrer avec vous, c'est Nathalie Dessay. Vous avez par exemple enregistré Cole Porter, What is this thing? Quelle est cette chose qu'on appelle l'amour? C'est ça.
Voilà, alors on revient à l'amour, mais c'est vrai que Nathalie Dessay et moi, j'ai eu la chance de jouer avec elle plusieurs fois l'été dernier dans le répertoire classique, dans Rachmaninov, dans Chabrier, dans des choses très différentes. Mais on s'est retrouvés à San Francisco, justement, pour travailler notre répertoire. Et le soir, on écoutait du jazz tous les soirs. Et on est allé dans un sorte de bar au bord de la mer avec sa Mustang. Et on était.
Elle nous a caché ça, vraiment.
Voilà, sur les côtes de San Francisco. Et là, l'idée est venue de faire ce Cole Porter. Elle me dit, je voudrais faire une balade qui n'a jamais été faite. Et justement, c'est une transcription inédite de cette chanson en balade lente et extatique.
Ah bah écoutez, vous n'êtes pas jalouse, Isabelle Georges? Elle est sur votre terrain, là, quand même.
Oh, non, mais elle peut aller sur tous les terrains. Elle est extraordinaire. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour elle. Donc, non.
Pour Nathalie Dessay aussi. Ouais. Bah, oui. Bah, écoutez, là, Shani Di Luca avec Nathalie Dessay pour ce titre que j'ai déjà annoncé, que je répète, Cole Porter, What is this thing? Quelle est cette chose qu'on appelle l'amour?
Love. What is this thing?